en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
La séance est ouverte et je mets tout d'abord, comme d'ordinaire, à l'approbation le procès-verbal de la précédente séance du lundi 23 mai. Est-ce qu'il y a des observations ? Pas de commentaires ? Il est adopté. Et je donne maintenant la parole à notre secrétaire perpétuel pour la lecture de la correspondance.
Oui, merci, Monsieur le Président. On demandait à être excusé de la séance de ce jour. Rémi Brague, Chantal Delsol, Emmanuel Leroy-Ladurie, Jean-David Lévite, Thierry de Montbrial et François Dorcival.
Je vous remercie. Où est-ce qu'ils sont ? Nous appelons aux honneurs de la séance, s'il est parmi nous, Monsieur Michel Robitaille, qui n'est pas là. Donc, nous aurions été heureux de l'avoir parmi nous, mais il n'est pas là, donc je ne peux pas l'appeler aux honneurs de la séance. Je vais donc passer immédiatement la parole à notre... regardez si vous avez... Nous avons aujourd'hui des dépôts d'ouvrages. Il y en a. Monsieur Kessler.
Oui, merci, Monsieur le Président. Chers confrères, j'ai le plaisir aujourd'hui de déposer sur le bureau de l'Assemblée le livre de notre confrère Jean Tirole, qui n'est pas là. Je préfère qu'il ne soit pas là parce que je vais le couvrir d'éloge. Son livre s'appelle « Économie du bien commun ». C'est un superbe ouvrage. C'est vraiment un très, très bel ouvrage où Jean Tirole nous fait partager sa passion, mais vraiment phénoménale pour cette science, toujours en développement, toujours en évolution, qu'est l'économie. Vous connaissez tous les qualités exceptionnelles de Jean Tirole, la très grande portée de son œuvre scientifique qui lui ont valu les plus hautes distinctions, dont le prix Nobel, bien entendu, et la reconnaissance vraiment de par le monde de l'ensemble de ses pairs. Ce n'est pas un hasard, d'ailleurs, que Jean Tirole ait rejoint notre académie. Dans son livre, où ne figure sur les 629 pages limpides, pas une seule équation, c'était le défi qu'on lui avait lancé, et il n'y en a qu'une et elle figure en note de bas de page, et donc on peut lui pardonner. Jean Tirole nous montre comment la science économique fournit les instruments pour pouvoir accéder au bien commun. Jean a une formidable conception du rôle de l'économiste. Je vous incite à lire notamment le chapitre 3, intitulé « L'économiste dans la cité ». L'auteur nous montre comment on peut parvenir à résoudre un grand nombre de problèmes que nos sociétés affrontent dans les très nombreux domaines en recourant à l'analyse économique rigoureuse. Partisan ni du tout marché, ni du tout État, Jean Tirole adopte une attitude très pragmatique, équilibrée, pour toujours parvenir à atteindre l'efficacité et l'équité. L'homo economicus est certes caractérisé par la rationalité, mais chez Jean Tirole, il est aussi homo psychologicus, homo socialis, homo juridicus. L'économie est bel et bien une science humaine, une science sociale, mais c'est aussi une science. Les analyses de Jean Tirole couvrent une palette incroyablement variée de domaines, emploi et chômage, croissance, gouvernance des sociétés, lutte contre le changement climatique, pollution, tarification de l'électricité, régulation des services publics, régulation financière, Europe et bien d'autres sujets encore. Jean Tirole, au terme de ses analyses, conclut, tranche, indique les voies et moyens les plus propices pour résoudre le problème traité. Formons le vœu que ceux qui exercent le pouvoir ou aspirent à le faire fassent de l'économie du bien commun leur livre de chevet et s'en inspirent et suivent la démarche exigeante et féconde proposée par Jean Tirole. Cet ouvrage fait déjà date, tant il est intelligent, riche, tant il enrichit considérablement la boîte à outils qui non seulement nous permet de comprendre le monde, mais aussi, si les outils sont utilisés à bon escient, à le rendre meilleur, plus proche des aspirations tant individuelles que collectives. Ce n'est pas à l'économiste de définir le bien commun, mais une fois qu'il est défini, c'est à lui qu'il incombe de déterminer comment l'atteindre le plus efficacement et le plus rapidement. PUF, qui est une excellente maison d'édition, qui a édité l'ouvrage de Jean Tirole, qui connaît déjà un très grand succès de librairie, il a été tiré à 70 000 exemplaires, ont le plaisir de vous offrir un exemplaire de l'économie du bien commun, et je vous en souhaite personnellement une excellente lecture.
Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie beaucoup. Y a-t-il d'autres dépôts d'ouvrages ? Il n'y en a pas. Alors, nous allons passer à la communication de ce jour, qui qui nous sera faite par M. Daniel Turp, professeur à la faculté de droit de l'Université de Montréal. M. Turp a poursuivi ses études universitaires à la fois au Canada, à Sherbrooke et à Montréal, à Cambridge et à Paris, Paris 2, où il est titulaire d'un doctorat d'État. Il enseigne donc le droit international public et le droit constitutionnel, ainsi que les droits fondamentaux à l'Université de Montréal. Il a également enseigné dans diverses universités françaises et européennes. Il préside le conseil d'administration de la Société québécoise de droit international, et en dehors de ses activités universitaires, il a eu des activités politiques, puisqu'il a été député du Parti québécois à l'Assemblée nationale du Québec et député du Bloc québécois à la Chambre des communes du Canada. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages de droit constitutionnel et de droit international. Et en outre, et ceci est cher à mon cœur personnellement, il est un amateur d'opéra et dirige la revue de l'opéra, la revue québécoise d'art lyrique, et je crois savoir qu'il rédige même actuellement le livret d'un projet d'opéra. Monsieur le professeur, vous avez la parole.
Vice-président Michel Brault, monsieur le secrétaire perpétuel Xavier Darcos, mesdames et messieurs de l'Académie, chers collègues et amis, des salutations particulières à mon épouse Bartha Knoppers qui se joint à nous aujourd'hui. Je tiens d'abord à remercier le juge Guillaume d'avoir invité à participer à cette série de conférences sur la vie internationale et le droit qu'il organise durant sa présidence. Je me réjouis d'ailleurs d'être de retour dans votre auguste enceinte où je recevais le 1er décembre 2014 au nom du réseau francophone de droit international avec mon collègue bruxellois Éric David, mais aussi avec mon collègue Daniel Dormois qui se joint aussi à nous de l'Université de Paris 11, le prix Édouard Bonnefou, où vous soulignez les 30 années d'existence de ce concours de procès simulé en droit international Charles Rousseau. D'ailleurs, depuis l'attribution de votre prix, deux autres concours ont eu lieu depuis, ici en France en 2015, organisés par Daniel Dormois d'ailleurs, et à Cuba en 2016. Il y a donc moins d'un mois, 26 facultés de droit de la francophonie, mais également d'Allemagne, d'Argentine, du Brésil, de Colombie, des États-Unis d'Amérique, de Russie, se sont affrontées en français, dans notre langue commune, lors d'un concours dont est sortie vainqueur une équipe composée de deux jeunes brésiliennes qui parlaient mieux français que nous. D'ailleurs, en conformité avec les conditions d'attribution du prix Bonnefou, ce sont de jeunes juristes d'Afrique, de Côte d'Ivoire et d'Europe orientale, de Roumanie, qui ont été les bénéficiaires du prix Bonnefou cette année. Et je vous remercie à nouveau de ce soutien au concours Rousseau. Le Québec et le droit international. Tel est le thème que j'ai choisi avec l'accord du juge Guillaume de traiter devant vous aujourd'hui. Ce choix aura la particularité de vous permettre de découvrir un État qui, sans être souverain et indépendant, a cherché à affirmer une personnalité internationale et à s'appuyer sur le droit international pour émerger comme l'un de ses sujets. Et à moins d'un an de la commémoration du 50e anniversaire de l'Exposition universelle de 1967, dont la tenue avait été marquée, peut-être que vous vous en rappelez, par le célèbre « Vive le Québec libre » du président Charles de Gaulle, vous me donnez l'occasion de présenter une synthèse de 50 ans d'évolution des relations internationales d'une nation qui a d'ailleurs développé avec la France une relation directe et privilégiée qui n'est pas étrangère à son acquisition d'une autonomie internationale dont je parlerai dans la première partie de mon exposé. Le droit international n'est par ailleurs pas étranger aux débats qui ont eu lieu et se poursuivent dans la quête du Québec en tout cas la quête pour certains et certaines de son indépendance nationale, et j'en parlerai dans la deuxième partie de mon exposé. Donc d'abord, l'autonomie internationale du Québec et le droit international. Le Québec est l'un des 10 États fédérés du Canada. Il se distingue par un régime juridique, comme vous le savez sans doute, s'appuyant sur un code civil d'inspiration française. Il dispose de pouvoirs fiscaux importants et détient des compétences qui sont énumérées dans la loi constitutionnelle de 1867. Celle-ci confère au Québec une très large autonomie, notamment en matière d'éducation, de culture. Cette autonomie a toutefois été réduite lors de l'adoption sans son consentement, ni de son peuple, ni de son parlement, ni de son gouvernement, d'une loi constitutionnelle de 1982 qui est à l'origine d'une impasse politique qui n'a pas été à ce jour résolue. Ce sont deux lois qui sont au centre de l'édifice constitutionnel canadien, qui ne comportent pas par ailleurs des dispositions relatives aux affaires étrangères. Le texte de la Constitution du Canada est silencieux sur les questions d'affaires ou de politique étrangère. Et c'est d'ailleurs dans le contexte d'une effervescente révolution tranquille au début des années 60 que le Québec a choisi d'affirmer l'existence au profit de l'État québécois d'une compétence en matière internationale. Cette affirmation s'est traduite dans un énoncé du vice-premier ministre du Québec devant le corps consulaire à Montréal le 12 avril 1965, qui est connu depuis lors par la doctrine Gérin-Lajoie. Cette doctrine est à l'origine d'une pratique des relations internationales du Québec qui n'a cessé de gagner en importance et s'est par ailleurs vu conférer une assise juridique en 2000 dans la loi sur l'exercice des droits fondamentaux et des prérogatives du peuple québécois et de l'État du Québec. L'enchâssement juridique de la doctrine Gérin-Lajoie démontre d'ailleurs l'importance qu'elle revêt et que revêt le droit international auquel elle fait référence dans la vie de l'État québécois. Cette importance est évidente lorsqu'on examine l'évolution des engagements internationaux du Québec, mais également lorsqu'on étudie sa représentation extérieure. Dans l'énoncé de la doctrine, le ministre Gérin-Lajoie, le vice-premier ministre, qui était aussi ministre de l'Éducation à l'époque, évoquait, je le cite, « la surprise qu'a causée la signature par la France et le Québec d'une entente sur l'éducation » et affirmait aussi que, et je cite à nouveau, « tout à fait conforme à l'ordre constitutionnel établi ». Il rappelait que face au droit international, en effet, le gouvernement fédéral canadien se trouve dans une position unique s'il possède le droit incontestable de traiter avec les puissances étrangères la mise en œuvre des accords qu'il pourrait conclure sur des matières de juridiction provinciale échappe à sa compétence législative. Fin de la citation. Après avoir rappelé que les rapports internationaux concernent tous les aspects de la vie sociale, M. Gérin-Lajoie énonçait la position du Québec sur les traités internationaux en ces termes. Je le cite, « c'est pourquoi dans une fédération comme le Canada, il est maintenant nécessaire que les collectivités membres qui le désirent participent activement et personnellement à l'élaboration de conventions internationales qui les intéressent directement. Il n'y a, je le répète, disait M. Gérin-Lajoie, aucune raison que le droit d'appliquer une convention internationale soit dissocié du droit de conclure cette convention. Il s'agit de deux étapes essentielles d'une opération unique. Ainsi, le gouvernement du Québec affirmait, dès 1965, par la voix de son vice-premier ministre, que le Québec avait le droit de conclure des conventions internationales. Cette affirmation du « Ius Tractatuum » du Québec, dont Paul Gérin-Lajoie reconnaissait par ailleurs qu'il était limité aux matières ressortissantes à sa compétence constitutionnelle, était une réponse aux différends qui avaient d'ailleurs opposé à la même époque le Québec et le Canada relativement à une entente entre le Québec et la France sur un programme d'échange et de coopération dans le domaine de l'éducation du 27 février 1965. Une affirmation d'ailleurs qui se traduisait pour le Québec par la conclusion d'une nouvelle entente sur la coopération culturelle entre les mêmes gouvernements du Québec et gouvernement de la République française le 24 novembre 1965. Bien qu'il n'y soit explicitement pas question dans l'énoncé du 12 avril 1965, la doctrine Gérard Lajoie connaîtra et connaît depuis une autre application, puisqu'elle sera le fondement du droit qu'affirme détenir le Québec et dont il dit être toujours titulaire, de donner au gouvernement du Canada son assentiment avant que celui-ci ne conclue des accords internationaux ressortissant de sa compétence constitutionnelle. D'ailleurs, ces applications de la doctrine Gérin-Lajoie sont décrites aujourd'hui dans la loi sur le ministère des Relations internationales et le Ius Tractatum québécois a été renforcé en 2000 par l'adoption de l'article 7 de cette loi sur l'exercice des droits fondamentaux et des prérogatives du peuple québécois et de l'État du Québec. Cet article se lit ainsi: « L'État du Québec est libre de consentir à être lié par tout traité, convention ou entente internationale qui touche à sa compétence constitutionnelle. » Et l'article ajoute que dans ses domaines de compétence, aucun traité, convention ou entente ne peut l'engager à moins qu'il n'ait formellement signifié son consentement à être lié par la voie de son Assemblée nationale ou du gouvernement selon les dispositions de la loi. En 2002, la loi sur le ministère des Relations internationales subissait, et mon souvenir, si mon souvenir est bon, il s'agissait de l'époque où Louise Beaudoin était ministre des Relations internationales. La loi subit d'importants changements. Elle compte désormais un chapitre intitulé « Engagements internationaux » et contient des règles nouvelles relativement à la conclusion des ententes internationales du Québec et sur l'assentiment du Québec aux accords internationaux du Canada. D'ailleurs, selon les données du ministère des Relations internationales les plus récentes, le Québec a conclu à ce jour plus de 743 ententes internationales, dont 380 sont encore aujourd'hui en vigueur. Parmi celles-ci, il y a en particulier près d'une trentaine d'ententes de sécurité sociale, une vingtaine d'ententes multisectorielles de coopération. Les autres ententes touchent un grand nombre de domaines, tels la culture, le développement économique, les permis de conduire, les exemptions relatives aux frais de scolarité, qui ont fait parler d'elles ces dernières années, dont le délégué général Michel Robitaille, qui se joint à nous, a voulu défendre, je crois, lorsqu'il s'agissait de ces exemptions destinées aux étudiants de France qui viennent au Québec. D'autres ententes portent sur l'adoption internationale, l'environnement, les sciences de la technologie et les communications. S'agissant des accords internationaux du Canada qui ressortissent à la compétence constitutionnelle du Québec, le Québec a donné son agrément à la signature de nombreuses conventions internationales auxquelles le Canada est parti, notamment à celles adoptées par l'ONU, par l'OIT, par l'OMS, par l'UNESCO, par l'OMC, par la Banque mondiale, ainsi que plusieurs conventions relatives à l'environnement, à la diversité biologique et au changement climatique. En 2002, de nouvelles règles ont aussi donné une dimension parlementaire à la doctrine Gérin-Lajoie et ont institué un mécanisme d'approbation parlementaire des engagements internationaux importants du Québec. C'était un des changements de nouvelles règles qui visait à démocratiser le processus de conclusion des engagements internationaux du Québec pour se distinguer, en outre, du Canada, qui ne prévoit pas d'intervention parlementaire dans le cas de traités dits importants. Et le Québec mettait donc en place, en 2002, donc il y a 14 ans, ce mécanisme qui confère, enfin, je dirais, un rôle à l'Assemblée nationale du Québec dans ce processus, comme l'Assemblée nationale française a un rôle dans le processus d'approbation des engagements internationaux de la France. Ainsi, la loi sur le ministère des Relations internationales du Québec prévoit-elle que certains engagements internationaux doivent, en raison de leur importance, faire l'objet d'une approbation par les députés. La loi sur le ministère des Relations internationales précise, et je la cite, qu'un engagement international important désigne l'entente, l'accord ou tout instrument se rapportant l'un à l'autre qui, de l'avis du ministre, selon le cas, requiert pour sa mise en œuvre soit l'adoption d'une loi ou la prise d'un règlement, soit l'imposition d'une taxe ou d'un impôt, soit l'acceptation d'une obligation financière importante, ou si une entente, un accord ou un instrument qui concerne les droits et libertés de la personne, qui concerne le commerce international ou qui devrait faire l'objet d'un dépôt à l'Assemblée nationale. Depuis 2002, le Québec a considéré que 54 accords et ententes se qualifiaient comme des engagements internationaux importants, soit un nombre égal d'ailleurs de 27 ententes internationales du Québec et 27 accords internationaux du Canada. Et à titre d'exemple, 14 conventions internationales multilatérales ont été approuvées par l'Assemblée nationale du Québec. Je vous cite notamment le protocole de Kyoto à la Convention cadre sur les changements climatiques, la Convention sur la protection et promotion de la diversité des expressions culturelles de l'UNESCO ou la Convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac de l'Organisation mondiale de la santé. Ainsi, se fondant à la fois sur le droit constitutionnel et le droit international, la doctrine Gérard Lajoie a engendré des règles de plus en plus élaborées relatives aux engagements internationaux du Québec et a amené celui-ci à légiférer pour prévoir des formalités par lesquelles le Québec entérine et ratifie lui-même ses propres ententes internationales et donne son agrément et un assentiment aux accords internationaux ressortissant à la compétence constitutionnelle du Québec. Mais cette doctrine, la doctrine Gérin-Lajoie, dont on a célébré d'ailleurs les 50 années d'existence l'année dernière, en présence de M. Jean Gérin-Lajoie, qui est un jeune homme de 96 ans, je crois, qui a tous ses moyens, qui a lui-même fait sa conférence lorsqu'il est venu commémorer les 50 ans de sa doctrine Gérin-Lajoie à l'École nationale d'administration publique l'année dernière. Sa doctrine n'est pas étrangère non plus aux multiples gestes qu'a posé le Québec pour assurer sa représentation extérieure. D'ailleurs, la doctrine Gérin-Lajoie révèle aussi la place de choix qu'a revêtue cette question de la représentation extérieure. Et je cite M. Gérin-Lajoie dans son énoncé de 1965. « Le Québec lui-même possède à l'étranger l'embryon d'un service consulaire grâce à ses délégués généraux qu'il représente. » et exerce des fonctions souvent analogues aux vôtres. Il parlait aux consuls qui étaient en poste au Québec. Dans les deux villes, Londres et Paris, disait-il, les délégués généraux du Québec bénéficient en pratique des immunités et privilèges que le droit et l'usage accordent habituellement aux fonctionnaires consulaires. Il y a également le droit de participer à l'activité de certaines organisations interétatiques de caractère non politique, disait-il à l'époque. Un grand nombre d'organisations n'ont été fondées que pour permettre la solution au moyen de l'entraide internationale de problèmes jugés jusqu'ici de nature locale. C'est ce que disait M. Gérin-Lajoie en 1965. Et donc, comme pour son Ius Tractatuum, le Ius Legationis du Québec qu'il s'attribuait dès 1965, est aujourd'hui aussi consacré dans la Loi sur les droits fondamentaux du Québec, qui prévoit que le Québec, et je cite la loi, peut également, dans ses domaines de compétences, établir et poursuivre les relations avec des États étrangers et des organisations internationales et assurer sa représentation à l'extérieur du Québec. D'ailleurs, aujourd'hui, la représentation extérieure du Québec se traduit par sa présence dans 28 pays et l'existence d'un réseau composé de 7 délégations générales, Bruxelles, Londres, Mexico, Munich, New York, Paris et Tokyo, 4 délégations, Boston, Chicago, Los Angeles et Rome, 9 bureaux, Barcelone, Beijing, Dakar, Hong Kong, Mumbai, Sao Paulo, Shanghai, Stockholm et Washington, 6 antennes, Atlanta, Berlin, Houston, Qingdao, Séoul et Silicon Valley, et 2 représentations en affaires multilatérales, la délégation aux affaires francophones et multilatérales ici à Paris et la représentation du Québec au sein de la délégation permanente auprès de l'UNESCO, également ici à Paris, dont je parlerai tout à l'heure. Alors, si la question du Québec auprès d'États étrangers est digne d'intérêt et qu'elle a parfois donné lieu à des différends avec le gouvernement du Canada, c'est par ailleurs l'enjeu du statut de la présence du Québec au sein d'organisations internationales qui a suscité les plus importants débats. Cet enjeu, d'ailleurs, a acquis une importance majeure lorsqu'il s'est agi de déterminer la place qu'occuperait le Québec au sein de l'organisation internationale que les chefs d'État et de gouvernement de la francophonie avaient décidé de créer au tournant des années 1970. D'ailleurs, 6 ans après l'énoncé de la doctrine Gérin-Lajoie et avec l'appui décisif de la France, le Québec réussit à obtenir un statut de gouvernement participant prévu à l'origine dans l'accord de coopération culturelle et technique qui créait l'agence et précisé dans des modalités selon lesquelles les gouvernements du Québec est admis comme gouvernement participant aux institutions, aux activités et aux programmes de l'agence de coopération culturelle et technique, des modalités qui avaient été conclues avec le gouvernement du Canada. Le statut du Québec, de gouvernement participant du Québec, est aujourd'hui fondé sur la Charte de la francophonie. Et le Québec détient une large autonomie au sein de ses organes et des institutions de la francophonie. Elle se déploie également dans les travaux de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement ayant le français en partage, mieux connu comme le sommet de la francophonie, en vertu d'une autre entente conclue avec le Canada sur le sommet francophone le 7 novembre 1985 et dont les modalités ont été appliquées à l'ensemble des sommets de la francophonie. Sans avoir fait l'objet d'ententes intergouvernementales, d'autres modalités encadrent par ailleurs la participation du Québec aux travaux des autres institutions de la francophonie, à savoir l'Assemblée parlementaire de la francophonie, les quatre opérateurs directs, l'Agence universitaire de la francophonie, TV5, l'Université Senghor et l'Association internationale des maires et responsables des capitales et des métropoles partiellement ou entièrement francophones, ainsi que les deux conférences ministérielles permanentes, la CONFEMEN et la CONFEGES. Le statut du Québec dans la francophonie a donc permis au Québec de participer aux travaux de ces multiples institutions et les règles contenues dans des ententes intergouvernementales garantissent véritablement un droit de participation du Québec, dont on pourrait dire qu'il est protégé aussi par la Charte de la francophonie, qui est un instrument de droit international. Ce précédent a d'ailleurs amené, celui de la francophonie, le Québec, à réclamer une place au sein d'autres organisations internationales. Il adoptait d'ailleurs, le gouvernement, une déclaration concernant la participation du Québec aux forums internationaux traitant d'éducation, de langue, de culture et d'identité en mars 1999. Et 6 ans plus tard, le gouvernement revenait à la charge en 2005 avec un document de travail dans lequel il revendiquait notamment une place à l'UNESCO. D'ailleurs, un accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec sur l'UNESCO était signé le 5 mai 2006, donc il y a 10 ans. Il était d'ailleurs qualifié par le gouvernement d'accord aussi important qu'historique. Il a toutefois fait l'objet de critiques, y compris les miennes. J'étais à l'époque député à l'Assemblée nationale, critique de l'opposition officielle en matière de relations internationales. Et j'ai toujours cru que, contrairement à ce que le Québec avait obtenu dans la francophonie, un statut de gouvernement participant, le Québec n'obtenait qu'une simple présence d'un représentant du Québec au sein de la délégation canadienne. Et une lecture de cet accord et une comparaison de celui-ci avec les ententes et pratiques qui s'appliquent dans la francophonie m'ont amené à être très critique et à le demeurer, en dépit du fait que les représentants du Québec au sein de la représentation permanente du Canada, qui sont succédés, Michel Doucet, Lynn Beauchamp et Michel Jean, ou Lynn Beauchamp maintenant, qui sera bientôt remplacée par Julie Méville-Deschênes parce qu'elle va succéder Lynn Beauchamp à M. Robitaille comme délégué général du Québec, ont dit et ont affirmé que la place du Québec, la place qui lui était donnée, lui permettait d'avoir des rapports tout à fait étroits avec l'UNESCO et ses instances. Cet accord mérite sans doute d'être critiqué, mais il a tout de même donné au Québec un accès plus grand qu'il ne l'avait avant à l'UNESCO. Mais, vous savez, la question du droit international est une question qui a suscité de grands débats lorsqu'il s'est agi du statut politique du Québec. À 2 reprises déjà, comme vous le savez, les Québécois et les Québécoises ont voté lors de référendums les invitant à opter pour l'indépendance nationale. Lors du premier référendum du 20 mai 80, le camp des indépendantistes avait récolté 40,44% des voix. Et lors de la consultation populaire du 30 octobre 1995, à l'occasion duquel, et on en est toujours très fiers au Québec, 93,52% des électeurs et des électrices avaient exercé leur droit de vote. 93% des gens avaient voté, 49,48% des électeurs et électrices avaient appuyé le oui à la souveraineté. Il a été beaucoup question du droit international dans le cadre de ces deux référendums et les enjeux découlant de l'accession à la souveraineté ont été au centre de grands débats pendant ces deux campagnes référendaires. Il s'agissait certainement moins le cas durant le premier référendum, bien qu'il en a été question dans le livre blanc qui avait été déposé par René Lévesque et qui avait fait l'objet de débat pendant la première campagne référendaire. Mais c'est dans les années qui ont précédé le deuxième référendum du 30 octobre que le droit national a occupé une place presque prépondérante dans les débats sur l'accession du Québec à la souveraineté. Par exemple, des études nombreuses avaient été commandées par la Commission sur l'avenir politique et constitutionnel du Québec, la Commission Bélanger-Campeau, qui portait sur des aspects juridiques relatifs à l'accession à la souveraineté, sur la reconnaissance internationale, l'adhésion à des normes internationales, sur des traités de nature économique. Le droit national sera aussi très présent dans les travaux d'une autre commission parlementaire dite d'études des questions afférentes à l'accession à la souveraineté instituée en 1992 par l'Assemblée nationale. Et parmi les nombreuses études qui ont été commandées par la commission sur les attributs du Québec souverain, d'un Québec souverain ou les implications de la mise en œuvre de la souveraineté, des études abordaient la question de la nationalité, de l'immigration, des droits des minorités, des nations autochtones, des frontières terrestres et maritimes du Québec, ainsi que de l'intégrité territoriale, cette dernière question ayant fait l'objet d'une étude par une prestigieuse équipe d'internationalistes, dirigée d'ailleurs par notre collègue, le professeur Alain Pellet. Et d'autres études ont porté sur des questions d'autodétermination, de souveraineté, de constitution, de reconnaissance internationale et de succession en matière de traités. J'étais d'ailleurs l'auteur d'une étude d'envergure sur la succession du Québec au traité du Canada en cas d'accession à l'indépendance. Lorsque M. Parizeau prend le pouvoir en 1994, il commande, lui, de nouvelles études à un secrétaire à la restructuration et notamment des avis portant sur les traités et accords avec les États-Unis, des études sur la monnaie, le crédit et les institutions financières, ainsi qu'une analyse d'envergure sur des questions de défense dans un Québec souverain sont produites en 1994 et 1995. Pendant la campagne référendaire de 1995, de nombreuses questions et des nombreuses règles du droit international sont soulevées, notamment la question de la citoyenneté québécoise, de la possibilité d'une double nationalité dans l'hypothèse d'une accession du Québec à la souveraineté, la question de la succession du Québec à l'accord de libre-échange nord-américain fait l'objet de débats entre juristes américains, experts européens, et Canadiens et Québécois. D'ailleurs, l'avant-projet de loi de la souveraineté qui avait été présenté par M. Parizeau le 6 décembre 2004 et qui se transforme en projet de loi numéro 1 sur l'avenir du Québec fera également référence au droit international dans des dispositions qui portaient sur le territoire et sur la succession d'États aux traités. Mais, vous savez, après la défaite référendaire, ou je dirais, dans mon camp, on dit plutôt la quasi-victoire des tenants de l'indépendance nationale du Québec, la question du droit national revient, puisque même avant la période référendaire, il y a eu une tentative de stopper la tenue du référendum par une injonction, parce que ce référendum aurait pu mettre en péril les droits fondamentaux des Québécois. Et les années qui suivent sont des années de grands débats judiciaires sur la portée du droit à l'autodétermination des peuples qui se transporte d'ailleurs devant la Cour suprême du Canada, puisque le gouvernement du Canada soumet à la Cour suprême du Canada une demande d'avis consultatif pour demander aux 9 juges de la Cour suprême si le Québec détient un droit de faire sécession unilatéralement en vertu du droit international ou en vertu du droit constitutionnel. Et la réponse de la Cour suprême du Canada est une réponse qui surprend. D'ailleurs, les internationalistes et les constitutionnalistes. Elle dit que le droit international ne peut pas soutenir un droit de faire sécession unilatéralement. La Cour examine l'idée du droit de sécession remède, mais elle dit que le Québec ne remplirait pas les conditions dans lesquelles un peuple pourrait invoquer ce droit de sécession. Mais, de façon assez surprenante, il dit oui, le Québec a un droit de sécession, il a le droit de chercher à réaliser la sécession en vertu du droit constitutionnel canadien, fondé sur des principes constitutionnels du fédéralisme et de la démocratie. Et cet avis est un avis important parce qu'aujourd'hui encore, on peut, lorsqu'on est indépendantiste notamment, se fonder sur cet avis pour dire que le Québec a un droit d'accéder à l'indépendance politique. Mais cet avis ne plaît pas beaucoup au gouvernement du Canada qui fait adopter dans les mois qui suivent une loi dite de la clarté dans laquelle il laisse entendre qu'il a un mot à dire à la fois sur la clarté de la question et la clarté de la majorité et où il semble surtout enchâsser cette obligation de ne pas négocier l'accession à la souveraineté si telle était la volonté de Québécois à qui on aurait posé une question qui n'était pas claire et où une majorité qui ne l'était pas non plus aurait voté en faveur de la souveraineté. Et cet avis, cette loi sont suivis au Québec par l'adoption d'une loi à laquelle j'ai déjà fait référence, la loi sur l'exercice des droits fondamentaux et des prérogatives du peuple québécois et de l'État québécois. Du Québec, une loi qualifiée par le premier ministre de l'époque, Lucien Bouchard, comme charte des droits collectifs, une loi dont je vous cite les trois premiers articles pour montrer que le Québec affirme son droit de décider librement de son statut politique. L'article premier de cette loi dit « Le peuple québécois peut en fait et en droit disposer de lui-même. Il est titulaire des droits universellement reconnus en vertu du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes. » L'article 2 affirme quant à lui que le peuple québécois a le droit indéniable, inaliénable, devrais-je dire, inaliénable, de choisir librement le régime politique et le statut juridique du Québec. Et l'article 3 dit « Le peuple québécois détermine seul par l'entremise des institutions politiques qui lui appartiennent en propre les modalités de l'exercice de son droit de choisir le régime politique et le statut juridique du Québec ». Et cet article continue en disant « Toute condition ou modalité d'exercice de ce droit, notamment la consultation du peuple québécois par un référendum, n'a d'effet que si elle est déterminée suivant le premier alinéa ». Et lus ensemble, ces trois articles se veulent ainsi une réponse à cette négation implicite du droit du Québec de disposer de lui-même et aux exigences et conditions que semble vouloir imposer le Canada par sa loi sur la clarté au Québec pour que celui-ci exerce son droit démocratique de chercher à réaliser l'indépendance du Québec. Les dispositions de cette loi sur les droits fondamentaux mettent donc en lumière le fait que celle-ci est sur une voie de collision avec la loi sur la clarté. Elle définit donc implicitement ou explicitement les modalités de l'exercice du droit du Québec de choisir de son régime. Et d'ailleurs, cette collision et ce débat juridique n'est pas terminé parce que, encore aujourd'hui, en 2016, il y a un recours pendant devant les tribunaux invitant les tribunaux à déclarer inconstitutionnel ces trois premiers articles et un autre article de cette loi parce que cette loi, si le Québec pouvait devenir indépendant, pourrait mettre en péril les droits constitutionnels des Québécois et notamment leurs droits fondamentaux. Je pourrais en dire un peu plus long dans notre période d'échange. Et je conclue, Monsieur le Président, chers membres de l'Académie, depuis le prononcé du discours de Paul Gérin-Lajoie devant le corps consulaire le 12 avril de 1965, on constate que le Québec a donné de véritables assises juridiques à ses relations internationales et a cherché à s'appuyer sur le droit international à cette fin. Le Québec assume aujourd'hui des engagements internationaux multiples et se déploie par une représentation extérieure au sein de la communauté internationale. Le Québec est par ailleurs et encore aujourd'hui appelé à défendre son droit à disposer de lui-même et de faire échec à un système constitutionnel canadien, qu'il s'agisse de la loi sur la clarté ou de la loi constitutionnelle de 1982, y compris la Charte canadienne des droits et libertés, dont il faut rappeler qu'elles ont été adoptées sans le consentement du gouvernement, du Parlement et du peuple du Québec, qui cherche à porter atteinte à son droit de choisir. Comme l'a écrit Charles-Louis de Secondat, baron de la Brède et de Montesquieu, dans la préface de l'Esprit des lois, que vous aimez, je crois, citer ici, à l'Académie des sciences morales et politiques, dont vous aimez rappeler la mémoire, et je le cite, « J'ai d'abord examiné les hommes et j'ai cru que dans cette infinie diversité des lois et de mœurs, ils n'étaient pas uniquement conduits par leur fantaisie. J'ai posé les principes et j'ai vu les cas particuliers s'y plier comme d'eux-mêmes. Les histoires de toutes les nations n'en sont que des suites. » Messieurs, Madame, les membres de l'Académie, les Québécois et les Québécoises ne sont pas uniquement conduits par des fantaisies lorsqu'ils veulent que le Québec consente de façon pleine et entière à des engagements internationaux, lorsqu'ils veulent assurer de façon distincte et libre leur représentation extérieure, mais également lorsqu'ils veulent assurer leur développement économique, social et culturel, en l'inscrivant d'ailleurs dans le sillon du droit international. Mais aussi, et plus globalement, les Québécois et les Québécoises veulent être libres de choisir leur statut politique. Et ce consentement, cette assurance, ce choix ne seront possibles, à mon avis, que si le Québec choisit la voie du pays. C'est l'accession du Québec à l'indépendance nationale qui fera du Québec ce qu'il devrait être, un véritable sujet de droit international. Merci.
Bien, je vous remercie infiniment à la fois de cet exposé, juridique approfondi et de cette profession de foi par laquelle vous avez terminé cet exposé. Je voudrais ajouter que je suis heureux de saluer parmi nous M. Michel Robitaille qui nous a rejoint, qui est délégué général du Québec à Paris.